Dans moins d'une demi-heure, donc, place à l'événement de l'entre-deux-tours. Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jordan Bardella seront face à face, successivement sur BFM TV à partir de 20h30. Et le tirage a désigné le Premier ministre pour entamer cette série d'interviews. Vous pourrez suivre son arrivée en direct dans nos locaux dans quelques instants. Gabriel Attal qui continue, lui, sa campagne sur le terrain, avec aujourd'hui un déplacement dans l'Oise. Il a notamment rencontré des électeurs un peu perdus dans les consignes de vote de l'exécutif. Écoutez-les.
On n'arrive pas à vous suivre.
Je vous le dis, vous avez vu la détermination, la constance qui a été la mienne toujours.
Mais oui, mais justement, pourquoi vous n'avez pas ce...
Vous savez, au premier tour de cette élection, il y a même des circonscriptions où nos candidats ont renoncé à se présenter par crainte que ça favorise la France insoumise qui était candidate sur leur circonscription.
On est déboussolés, monsieur.
La situation est très... Mais parce que la situation est très compliquée.
Et même vous, je pense que même... Vous y retrouvez quelquefois.
Moi, je m'y retrouve très bien en soutenant nos candidats Ensemble pour la République, en étant très clair sur le fait que je ne gouvernerai jamais, que je ne ferai jamais d'alliance, ni avec la France insoumise, ni avec le Rassemblement national, et que je me bats aujourd'hui, parce que c'est le seul risque de ce deuxième tour, pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue.
Nous sommes rejoints par Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, Charles Sapin, journaliste politique au point et auteur des Moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste parue aux éditions du Feur, et Anne-Sora Dubois, journaliste politique de BFM TV. Anne-Sora, vous étiez aux côtés du Premier ministre cet après-midi.
Oui,
c'est devenu sa priorité d'incarner à tout prix le Front Républicain qui fait barrage au RN.
Oui, d'abord parce qu'il y a une question de bilan et d'héritage, donc une question d'image. L'idée de dire que cette majorité sortante laisserait les clés au Rassemblement national, oui, à l'issue, effectivement, de cet exercice de Matignon pour Gabriel Attal, c'est extrêmement douloureux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une forme de flou au début, juste après le premier tour, même avant un peu le premier tour, sur qui était le plus dangereux. Est-ce que c'était le Nouveau Front Populaire, oui, ou est-ce que c'était le Rassemblement national? Et la majorité a compris assez vite que l'idée selon laquelle, finalement, le Front Républicain, ce qu'on a appelé longtemps le Front Républicain, le cordon sanitaire sur le Rassemblement national, ne tenait plus. Il y avait une partie de l'électorat macroniste qui était profondément hostile, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de la gauche, oui, au sein de l'électorat macroniste. Et donc c'est l'idée de cet héritage, l'idée aussi de l'incarnation qu'il va laisser, la trace qu'il va laisser, Gabriel Attal. Et donc oui, effectivement, c'est ce qu'il martèle aussi pour clarifier, parce que vous voyez, il y a encore beaucoup de Français aujourd'hui qui ne comprennent pas les atermoiements qui ont eu lieu ces derniers jours,
mais bien sûr,
au sein de la majorité, qui disent qu'est-ce que ça veut dire, finalement on fait barrage, mais certains LFI, oui, on mettra des candidats face à eux, mais pas tous. Il y a même, je vous cite un ministre qui m'avait dit, on mettra des candidats face aux LFI qui sont des dingues. Et du coup, il y avait un député de la majorité qui disait, mais est-ce qu'on va avoir une liste des dingues et qui va la rédiger?
Oui.
Voilà, c'est ça qui se passe.
Dit comme ça, évidemment, oui, je vois un peu les difficultés, Catherine Tricot. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que va nous expliquer Anne-Sora Dubois?
Moi, je pense, en effet, il leur faut rétablir une situation qui était quand même très mal engagée. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand flou et même, c'est pas seulement un flou. En fait, quand le président de la République disait que le programme du Front Populaire était 4 fois plus dangereux que celui du RN, là, il trahissait quand même, en gros, quand même une bonne partie de ses électeurs, au moins de second tour, qu'il avait fait élire contre le Rassemblement national, et donc qui avait porté espoir que Emmanuel Macron allait s'opposer au Rassemblement national. Or, il se trouve que le président a employé des mots très très choquants,
oui,
comme immigrationniste, et a mis en cause essentiellement la gauche. Donc là, il a fallu rétablir la situation relativement rapidement, et l'argument d'Emmanuel Macron, c'est finalement, on peut le faire parce que la gauche n'est pas en situation de gouverner, ce qui était une manière de se rétablir et d'ouvrir un nouveau champ qui était celui de la grande coalition dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire en fait de ne pas se dédire, c'est-à-dire de dire finalement à l'issue de ces élections, d'accord, c'est un grand bazar, mais peut-être que je vais réussir à faire ce que je n'ai jamais fait pendant mes 7 ans de présidence, c'est-à-dire rassembler les raisonnables de tous bords.
Pierre Giacometti, le discours, c'est oui, la France insoumise peut mener à la guerre civile, mais ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir, donc vous pouvez voter pour eux. En tout cas, c'est ça le message du président de la République et des macronistes en ce moment.
Dans les motifs de rejet dont fait l'objet le président de la République,
c'est pas très motivant, vous voyez ce que je veux dire.
Le rejet à l'égard d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années, il y a évidemment la personne, mais il y a aussi la grande déception de l'absence de vision stratégique, de vision de la France, et donc l'incompréhension des choix opérés. On a fait allusion tout à l'heure de la fameuse séquence sur la loi immigration. Il y a beaucoup de Français qui n'ont rien compris aux alternoiements, aux changements de pied, à l'approbation des décisions du Conseil constitutionnel, alors que la loi avait été votée par le groupe majoritaire. On est aujourd'hui dans l'opinion face à un président qui donne le sentiment d'un en même temps permanent. Et au fond, le choix qui est proposé, qui, à mon avis, tactiquement, n'est pas forcément inintéressant. Le choix de cette semaine de proposer une majorité plurielle, nouveau format, c'est le summum du en même temps, mais avec une vision étendue à ce point des communistes au LR, en passant par les écologistes, les socialistes, les centristes, etc. Et donc, dans tout ce débat cette semaine, on voit bien que la difficulté pour le camp présidentiel, c'est de réinstaller l'idée que ce choix central
qu'ils sont a toujours centraux.
Du sens. Ils sont centraux, ils ont toujours du sens. Évidemment, ça n'est pas la même chose d'avoir plus de 200 députés pour gouverner, même avec une majorité relative, que d'en avoir une centaine et d'avoir besoin de contingents beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus compliqués à gérer. C'est pour ça que c'est un choix qu'on peut comprendre tactiquement, mais qui donne le sentiment d'être un petit peu désespéré du point de vue politique.
Est-ce audible par les Français qui vont voter, Thierry Arnaud ?
Et je crois que c'est tout l'enjeu de ce soir, en fait, pour Gabriel Attal. La question, s'il n'y en a qu'une, à laquelle il va devoir répondre sur BFM TV dans quelques minutes maintenant, c'est quel est le sens de ce projet. Oui. Pourquoi est-ce qu'on constituerait cette majorité, a priori totalement contre-intuitive, avec des gens qui ne s'entendent pas, qui veulent des options différentes? On les rassemble. Pourquoi faire? Et en quoi ce projet est-il crédible, attrayant et peut faire envie aux électeurs? Il y a un double paradoxe Attal dans cette campagne. D'abord, il conduit une campagne dont il n'a absolument pas voulu. Cette dissolution, il était contre.
C'est une souffrance pour lui.
Il n'en a jamais fait mystère. Et pourtant, il est le chef de celui qui conduit le camp Macron.
Et il est sur le terrain.
Dont il ne voulait pas. Et il est sur le terrain. Et il y sera jusqu'au bout. Et le deuxième paradoxe, c'est que la question n'est pas de savoir si dimanche soir va consacrer l'échec de la Macronie. C'est de savoir quelle va être l'étendue de l'échec. Or, si on regarde les sondages, à titre personnel, pour l'instant, lui s'en tire plutôt bien. Lorsqu'on interroge les Français sur la question de savoir qui ferait un bon Premier ministre aujourd'hui, il arrive à touche-touche avec Jordan Bardella, et je crois même qu'il y a un sondage ce soir qui le place légèrement en tête. Donc il a un capital politique personnel dont il va aussi pouvoir se servir ce soir pour porter ce message.
Charles Sapin, le coup de tonnerre du côté des instituts de sondage, il nous vient ce soir de chez Harris, qui publie une première projection au siège pour dimanche. Alors, je sais que beaucoup sont sceptiques sur ce genre de projection, et le RN est très loin d'une majorité absolue, quasiment au coude à coude avec le nouveau Front Populaire. C'est une surprise, on peut en prendre ça au pied de la lettre. Comment vous interprétez ça?
Je ne l'interprète pas, parce qu'au risque d'abonder dans l'unanimisme, ces projections, il faut vraiment les prendre avec d'immenses pincettes.
D'accord. Vous êtes tous d'accord.
Hein. J'ai eu plusieurs sondeurs et politologues au téléphone aujourd'hui pour faire des articles et venir sur votre plateau. Tous me disent la même chose. Ce sont les élections législatives les plus dures à prévoir depuis que les sondages existent.
Les législatives, c'est dur, et dans les législatives, c'est parmi les plus dures.
Depuis 65, et pour une raison très simple.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Priorité au direct pour l'arrivée de Gabriel Attal. Le Premier ministre qui est en train d'arriver dans les locaux de BFM TV. Marc-Olivier Fogiel, Hervé Bérou. Bon, apparemment, ils sont de bonne humeur. Voilà, ils ont l'air de bonne humeur. Ça se passe pas mal. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Mais est-ce que Gabriel Attal peut incarner le nouveau projet qui est en cours? La nouvelle coalition, ça peut vivre autour de lui?
Le problème, c'est que contrairement à ces deux opposants, et on le verra bien ce soir, c'est que si vous voulez, Marine Tondelier est là pour encore défendre un projet. Oui. Jordan Bardella, pareil. Gabriel Attal, c'est pas le cas. Il peut faire 1000 propositions supplémentaires. Lui, il sera jugé sur quoi? Sur un bilan. Et ce bilan, il est difficile. Que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur l'immigration, qui sont les principales, rappelons-le, préoccupations des Français aujourd'hui. Le bilan est mauvais et joue contre le Premier ministre. Et pour ajouter à cette situation, c'est vrai que vous parliez de cette clarification du Premier ministre sur les consignes du second tour. Moi, je trouve que c'est encore assez flou. Hein.
Vous trouvez que la clarification n'est pas très claire?
Mais c'est pas clair du tout. Vous avez un Gabriel Attal qui, quand même, au premier tour...
Tous du mal à l'exprimer, je suis d'accord avec vous.
Mais que le bloc de gauche était finalement un bloc antisémite et anti-républicain. Aujourd'hui, il appelle à voter pour ce bloc qu'il traitait donc d'antisémite et d'anti-républicain il y a une semaine. Pourquoi? Pour empêcher une force qui était antisémite et anti-républicain il y a 50 ans. Je suis désolé, il y a deux choix. Soit vous avez des électeurs qui vont perdre leur latin, soit il y en a d'autres qui vont juste interpréter ça comme le plus gros tract qui n'a jamais existé pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs, je crois que le Premier ministre a commencé à le comprendre, parce que là, ce matin, et dans ses différentes prises de parole, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura jamais de coalition avec la France insoumise. Le problème, c'est que s'il arrive troisième, son bloc, le bloc central arrive troisième, mais ce choix de gouverner ne lui reviendra plus. Et cette coalition qui restera devra se faire de François Ruffin à Laurent Wauquiez, de Sandrine Rousseau à Aurore Berger, qui sont d'accord sur presque rien. C'est l'alliance de la carpe et du lapin, incapable de faire passer des réformes, donc ça sera une majorité de gestion.
Ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe. Alors je sais que notre constitution ne nous y prépare pas du tout, elle n'a pas été construite pour ça. Elle a été construite pour justement que des majorités, je dirais...
Vous avez raison, et il y a un exemple récent. C'est l'exemple en Italie, de 2018 à 2022, c'était le gouvernement Draghi, où il y avait à la fois des forces de gauche radicale et des forces de gauche de droite radicale, qui aboutit sur quoi ? L'élection de la seule force politique qui ne participait pas au gouvernement, celle de la nationaliste Giorgia Meloni.
Anne-Sara Dubois.
C'est un peu l'espoir côté majorité, oui. Certains proches du président et du Premier ministre disaient ces derniers jours, on a commencé à faire infuser ça en 2017, avec le « et en même temps », la droite et la gauche qui peuvent gouverner ensemble sur les points d'accord, les points de désaccord, un peu comme le dit Marine Tondelier à propos du nouveau Front populaire, on s'engueulera plus tard, mais en tout cas, au moins sur les points d'accord, on a un socle solide pour gouverner. L'erreur qui a été commise entre-temps, c'est effectivement depuis 2022, la donne a changé, et donc le gouvernement a basculé vraiment à droite. Et donc cette coalition, finalement, le « et en même temps », il y a une des deux jambes qui a été très, très grandement fragilisée. Et c'est l'espoir dans cet entre-deux-tours que de refaire croire aux Français à la possibilité d'une coalition. Avec un espoir quand même assez limité, pour vous le dire, parce que l'agenda du Premier ministre est plutôt est très très occupé par la campagne. Mais on comprend qu'entre la toute fin de semaine, la fin de la campagne et l'annonce des résultats, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Au cas où, ça veut dire gérer les dossiers, finir de gérer les dossiers qui sont gérés personnellement par le Premier ministre. Ça veut dire éventuellement quelques temps pour faire fonctionner la broyeuse et faire quelques cartons au cas où. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune certitude, et on comprend bien pourquoi, que Gabriel Attal soit toujours Premier ministre lundi matin.
Ce serait même plutôt le contraire. Pierre Giacometti.
Si, comme le disent certaines projections, le Rassemblement national est loin de la majorité absolue.
Oui.
Emmanuel Macron prend Jordan
c'est
Bardella.
C'est le cas de notre sondage ce soir.
Il prend Jordan Bardella au mot. Vous avez souhaité gouverner dans le seul scénario de la majorité absolue. Mmh. Vous n'avez pas la majorité absolue. Donc je dois, moi, président de la République, trouver une alternative. Si le total arithmétique du Front populaire, en excluant LFI, et de la majorité présidentielle sortante est supérieure en siège au score du Rassemblement national en siège, alors, même improbable, cette stratégie conduit le président de la République à chercher et à discuter pendant de longues semaines, probablement, y compris au-delà des Jeux Olympiques, parce qu'il en a le droit sur le plan constitutionnel, il n'est pas pressé par le temps, de trouver les ressorts d'une coalition absolument improbable idéologiquement, pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer ce soir, mais c'est la seule solution qui lui reste. On a parlé de gouvernement technique avec des techniciens non politiques, etc. Cette solution-là paraît quand même peu probable, mais aujourd'hui, évidemment, c'est sa seule solution. Le vrai risque de cette solution, c'est que ce qu'on appelle parfois, de manière un peu résumée, le peuple de droite.
Oui.
Le peuple de droite, quand il entend ce qu'il a entendu depuis trois jours, je pense que dans les circonscriptions sensibles où tout se joue, il a plutôt de très très bons carburants et de très bons ingrédients pour avoir envie furieusement de voter Rassemblement national, compte tenu de ce à quoi il assiste depuis de trois jours. C'est-à-dire ce sentiment un peu de collusion, de rapprochement, de contre-nature pour certains. Ça peut donner le sentiment aux électeurs de droite que la seule solution qu'il leur reste, alors qu'ils n'ont pas forcément voté...
Oui, radicaliser les électeurs de droite.
Radicaliser parce qu'ils n'en peuvent plus. Et j'y ajoute, les abstentionnistes qui, au premier tour, ne se sont pas déplacés. C'est vrai qu'on a beaucoup voté il y a dimanche dernier.
On a énormément voté, oui.
Il reste beaucoup d'électeurs qui peuvent se déplacer, notamment au regard de ce, entre guillemets, spectacle auquel on assiste depuis trois jours.
Catherine Tricot, vous croyez au fait qu'on puisse avoir une mobilisation encore plus importante au second tour? Parce qu'elle est déjà historique, là.
Oui, dans les circonscriptions où ça se joue à peu,
bien sûr,
le Rassemblement, je pense qu'il va y avoir cette surmobilisation. Et en effet, on ne sait pas dans quel sens elle va aller. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une prise de conscience que véritablement, là, c'est pour de vrai que le Rassemblement ça peut gouverner. Et puis en même temps, donc, des gens qui peuvent être en effet tentés de se dire on va renverser la table et on va le tenter. Et on a vu dans les sondages que même une partie des électeurs de Renaissance serait tentée par cette hypothèse. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure du niveau de colère et d'envie qu'il se passe autre chose. C'est pour ça que je trouve que la proposition de grande coalition, elle a un avantage du côté du président de la République, c'est qu'elle dit il y a une solution. Même si le Rassemblement national n'a pas la majorité, il y a une solution. Le pays ne sera pas dans le chaos. Donc, il avance cette proposition. Mais en même temps, le problème que cela pose, c'est qu'en fait, on a évoqué les précédents dans d'autres pays, en Italie ou en Allemagne. En Allemagne, il y a une grande coalition qui va des libéraux aux socialistes et aux écologistes. Ils se sont pris une tannée aux élections européennes. Et c'est l'extrême droite qui a monté. C'est-à-dire que le problème d'une grande coalition, des gens raisonnables qui sont là pour trouver une solution de continuation du système, les Français n'en veulent plus, n'en veulent pas, parce que là, il y a trop de choses qui ne vont pas. C'est pour ça, et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'en fait, ils peuvent rêver de faire exploser le nouveau Front populaire et de le scinder en deux. Je pense que ce n'est pas le président de la République qui en décide, c'est aussi les forces du nouveau Front populaire qui en décideront. Est-ce qu'elles seront tentées ou pas d'aller vers cette proposition? Et elles savent toutes que si elles vont vers cette proposition, elles ouvrent le champ à finalement une radicalisation, le coup d'après encore plus grande.
Je passe du Front populaire au soi-disant Front républicain qui pourrait naître. Est-ce que ça ne va pas énormément énerver une bonne partie des Français qui votent? Est-ce que ça ne peut pas créer au contraire de l'abstention? Ils sont en train de nous monter une magouille.
Si vous voulez, en effet, ça peut tout à fait créer une colère. Sauf que la colère ne mène pas forcément à l'abstention. C'est plutôt le contraire. Oui. On l'a vu, participation record lors des dernières européennes, score record pour le Rassemblement national. Participation record au premier tour des élections législatives. Et vous avez un score tout à fait inédit du Rassemblement national qui rassemble avec ses alliés 10,7 millions de voix, c'est-à-dire 2 millions de plus qu'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc, en effet, le fait d'avoir ce... Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Front républicain, on l'a vu lors de l'élection législative de 2022, marchait moins bien. Parce qu'il énerve une forme d'électeurs qui ont l'impression que leur voix est volée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces élections sont si dures à prédire. Parce que quand vous êtes un électeur de gauche et que vous vous retrouvez face au choix entre un candidat RN et un candidat macroniste, le choix n'est plus du tout aussi évident qu'en 2017. Voilà. Et si vous êtes un électeur macroniste et que vous avez le choix entre un candidat RN ou un candidat de la France insoumise ou du bloc de gauche, oui, le choix n'est plus du tout aussi évident. Et c'est pour ça que ces élections, bien malin, qui pourra prédire le résultat avant dimanche.
Thierry Arnaud.
Même dans l'hypothèse où cette majorité relative, centrale, arriverait, j'allais dire, à être bricolée, on arriverait à la mettre en place, elle serait très vulnérable. Rappelons les chiffres, 577 députés, une majorité absolue à 289 sièges. Si l'addition des députés du Rassemblement national et des députés de la France insoumise, oui, à chaque extrême de l'Assemblée nationale dépasse ce chiffre de 289. Ça veut dire qu'il existe la possibilité que ces deux-là s'allient pour faire tomber le gouvernement à tout moment. Et ça rend, encore une fois, ce projet, indépendamment de toute la complexité qu'il y a à le construire et qu'on vient de décrire, ça rend aussi ce projet arithmétiquement très vulnérable.
Anne-Sara Dubois.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce soir, on va avoir trois personnalités politiques qui sont chacune de la nouvelle génération politique, donc qui connaissent les risques, effectivement, des majorités bricolées, des alliances d'appareils un peu factices qui peuvent énerver les Français. Ils sont tous les trois très conscients, chacun à leur niveau, du danger que peuvent représenter ce type d'accord un peu, effectivement, entre la carpe et le lapin, et le danger que ça peut représenter en termes de cassure de la vie démocratique, de rejet des Français de la vie politique. Marine Tondelier, ça a été une des chevilles ouvrières de l'alliance du Nouveau Front Populaire. Pour autant, elle a fait le pont entre les insoumis et les socialistes. Pour autant, elle est parfaitement consciente de la difficulté qu'il peut y avoir à présenter une alliance comme celle-là. Elle tire des deux côtés pour essayer de maintenir le lien. Mais elle sait aussi qu'à la fin, il faudra une clarification. Jordan Bardella, pareil, entre Éric Ciotti et Reconquête. Ils ont tenté aussi chacun de leur côté. Gabriel Attal, lui aussi, avec l'Alliance, et en même temps. Donc les trois sont parfaitement conscients de l'intérêt des alliances, mais aussi de leurs difficultés.
Un oui, un non. Le président de la République doit prendre la parole dimanche. Il me faut vraiment un oui, un non. Vous
sinon dimanche, en tout cas très rapidement.
Dans un instant, face à BFM TV, notre soirée spéciale législative. Ils sont là, tous les trois, Gabriel Attal, Marine Tondelier et Jordan Bardella. Très bonne soirée sur notre chaîne.